Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Chez l'humain, il y a la façon comment il se comporte, la façon comment il s'exprime. Il y a deux manières. Il y a une manière plutôt visible, c'est qu'on, d'une façon consciente, il comprend, il fait selon sa compréhension, et il réagit avec ses sentiments. Et donc c'est plutôt quelque chose visible, sentimental, logique, en fait, quelques notions. Et il y a parfois où il réagit d'une façon, il y a quelque chose qu'on connaît en lui, et c'est le non-conscient qui réagit. Là aussi, il y a plusieurs niveaux. Il y a parfois où l'homme, il réfléchit et il fait. Et parfois, donc, il fait des choses d'une façon non réfléchie, mais c'est quelque chose qu'on enregistre en lui. Il y a parfois dans la conduite, on fait, on réfléchit, on va à droite, on va à gauche, on va faire ci, on va faire ça. Et parfois, on agit d'une façon spontanée parce que c'est intégré en nous. Heureusement qu'on a ces réactions parce que il ne faut pas attendre à réagir jusqu'à un moment où je vais dire « voilà, il faut faire ça ». Et à ce moment-là, il faut que je fasse ça. Il y a parfois les parties est plus profond qui se trouve en moi, qui réagit, mais c'est les parties profondes qui sont liées quand même avec ma partie consciente, ma partie logique. Et seulement que c'est moins visible. C'est pour ça que je réagis là où peut-être ça dépasse la logique, ça dépasse d'autres choses, mais c'est le non-conscient qui réagit, mais c'est quand même la partie qui est liée avec le conscient. Après, il y a plusieurs niveaux dans cette même idée, combien on réagit d'une façon logique et combien le non, il y a une réaction profonde, non logique, non consciente, qui réagit. Donc, alors, ça, c'est des choses qui se trouvent, que ça existe chez toute personne, qu'il y a les parties visibles, logiques, et il y a les parties non logiques, et parfois, il se révèle. Mais il y a aussi une partie, donc on a dit que dans le non-conscient, il y a plusieurs niveaux de ce qu'on appelle non-conscient, où il y a le non-conscient qui est proche de conscient, comme celui qui conduit, alors il réagit, mais c'est une réaction rapide par rapport, je n'ai pas réfléchi qu'il faut faire telle et telle chose, mais c'est la réflexion rapide. Mais il y a parfois où il y a quelque chose que je ne sais même pas que j'ai ces forces. Je ne connais pas mes forces en moi, mais ça réagit au moment très spécial, au moment très rare, au moment de difficulté, une grande difficulté qu'à ce moment-là, d'un coup, je révèle des forces intérieures que parfois je ne savais même pas que j'ai ces forces. Ça peut être au moment où des moments de difficulté, ou bien ça peut être aussi une autre extrémité, au moment d'une grande joie, que là aussi, on peut développer des forces que je ne suis pas au courant. Dans le chassidut, il est marqué que parfois, quand quelqu'un il est très, très joyeux, il peut comprendre des choses qu'il n'arrive pas habituellement à comprendre, parce qu'il y a un lien entre toutes les profondeurs de notre âme et de notre corps, que lorsque, quelque part, la joie, c'est quelque chose qui dépasse la limite, ça agit sur le conscient, ça agit sur l'intellect, sur les sentiments et même sur les actes. Donc, alors, on revient à cette même idée qu'il y a les parties logiques. Je fais ça pour telle et telle raison. Et lorsque je comprends une autre chose, je veux réagir d'une autre manière, etc., pour les autres sentiments. Mais il y a les parties profondes de l'homme qui réagit parfois, surtout ça se réagit dans des moments extrêmement soit joyeux, soit de l'autre côté un moment de difficulté énorme. Et notre paracha, elle commence par Ve'ata Tetzavé. Notre paracha nous parle des vêtements de Cohen. On a vu la semaine dernière, le désir de Dieu qu'on construit une maison. On a expliqué un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a besoin d'une habitation terrestre. Mais cette paracha, c'est la suite. On parle des vêtements de Cohen. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose d'important à savoir. Est-ce que c'est l'habit qui font les moines? En tout cas, c'est un sujet intéressant. Mais en tout cas, dans notre paracha, on voit que les habits sont très importants à tel point que c'est ça qui fait fonctionner les choses. Mais ça, je fais rentrer entre parenthèses. Mais la paracha, elle commence quand même par un sujet assez étrange. La Torah nous demande que le peuple d'Israël apporte à Moïse, à Moshe, de l'huile d'olive pour qu'on puisse allumer les bougies dans le temple. Mais on sait que chaque chose, il y a l'idée simple, donc au niveau matériel, il faut faire telle et telle chose. Et ensuite, il y a l'idée symbolique, qu'au niveau symbolique, il y a telle et telle idée. Donc alors, au niveau symbolique, on sait que la menorah, donc cette lumière qui éclairait dans le temple, cette branche, représente le peuple juif, représente en général le monde, la lumière dans le monde, qui est séparée en cette branche. Mais ensuite, il y a l'huile d'olive. Donc alors, dans notre parasha, on ne parle pas beaucoup de ce sujet, il n'y a que deux versets. Mais dans le verset, on parle plutôt de l'huile et moins de cette candélabre. Mais on parle de l'huile, que l'huile doit être de l'huile de première pression, etc. Mais au niveau symbolique, on explique comme ça, que cette huile doit être écrasée. Donc l'huile, on sait que ce n'est pas quelque chose qui sort naturellement, il faut écraser. Et quelque part, dans le chassidut, on développe, c'est un sujet un petit peu douloureux, mais c'est un sujet qu'au moment où on écrase les olives, c'est à ce moment-là où le biais de l'olive, ça veut dire ce qui est plus important dans l'olive, c'est l'huile, mais l'huile au niveau très élevé, une qualité très importante, première pression, c'est là où les choses sortent et à ce moment-là, il peut éclairer, il devient une lumière, même une base de lumière. Ce qui nous dit que parfois, par des moments difficiles où on est écrasé dans la vie, en fait, par des efforts que parfois on fait, c'est lui qui fait un effort, même parfois quand la vie est difficile, ça doit apporter à quelque chose de profond. Ça veut dire que ça doit, quelque part, comme quelqu'un qui pousse, je ne trouve pas les mots, mais ça veut dire que quand on fait beaucoup d'efforts, alors à ce moment-là, c'est le biais qui sort. Et là aussi, c'est la notion de l'huile d'olive. Et on pousse, on fait un effort, à ce moment-là, c'est ce même moment difficile, écrasant, devient une source de lumière. Et à partir de là, au niveau symbolique, on veut dire que les moments, même si on souhaite de bien, on souhaite de bien pour nous, on souhaite de bien dans notre entourage, et on cherche le bien. Il faut chercher toujours à être tranquille, bien, il ne faut pas chercher les difficultés dans la vie. Mais quand même, après tout, une fois passé, alors il faut voir que les difficultés et les complications dans la vie, c'est quelque chose qui nous pousse à amener, à révéler en nous quelque chose de profond, comme ici l'exemple de l'huile. Donc c'est ça qu'on explique dans la Chassidut, ces versets, que quand on écrase, ça veut dire quand il y a des moments de difficulté, alors à ce moment-là, il y a quelque chose de profond qui sort, et c'est ça, donc c'est pour ça que l'huile devient une notion de luminaire. Ça veut dire que ça devient une source de lumière. Et là, on attache dans le chassidoute avec ce qui s'est passé le jour de Pourim. Pourim, ce qu'on va, on se prépare à cette fête. Donc, on est une semaine avant, ça va être la fête de Pourim. Ça va être le 13 mars en même temps que le 13. Le 13 mars au soir, en même temps que le 13 Adar en soir, donc le 14 Adar. Parce que dans le judaïsme, la journée commence par la tombée de la nuit, donc ça va être le 13 Adar au soir et le 13 mars en soir. Et le 14, le jour du 14. Cette année, c'est particulier parce que ça tombe vendredi. C'est rare que ça tombe vendredi et il y a des lois spéciales parce qu'en même temps qu'il faut respecter les lois de Pourim, il faut aussi respecter les lois de Shabbat qui, là, ça coince un petit peu avec les repas et les festins même de Pourim qu'on le fait normalement dans l'après-midi de Pourim. Cette fois-ci, c'est la veille de Shabbat. Si on va manger beaucoup et surtout si on boit plus que d'habitude, ça va déranger le repas de Shabbat, qui est très important. Et donc, on essaie de trouver des solutions. Il y a des différentes solutions, mais de toute façon, c'est un jour où il faut préparer dans cette pardon, dans ce moment. Il y a quatre mitzvot, quatre lois à faire. La première, c'est une mitzvah, une loi qui se répète. On le fait le soir, donc le 13 mars au soir, et ensuite le 14 au matin, mais ça peut être toute la journée, c'est la lecture de la Megillah. On raconte l'histoire de la Megillah, on raconte l'histoire de Pourim en détail, et c'est important d'écouter tout. Et ensuite, on nous dit « Ayamim ha'ele nizkarim v'nasim ». Ça veut dire que, d'une part, une fois qu'on a écouté, on passe aux autres loi de Pourim, il y a encore trois lois, c'est donner des cadeaux l'un pour l'autre, et donc des cadeaux de ce qu'on peut manger, surtout ce qu'on peut manger tout de suite, comme des gâteaux ou des choses comme ça, mais en fait, ça peut être d'autres choses qu'on peut tout de suite consommer. Donc, on a l'habitude de donner deux mots à une personne, mais on a l'habitude quand même dans la communauté juifs de partout, de donner aux amis, aux beaucoup des amis, etc. Donc parfois, on passe la journée à donner, et parfois recevoir aussi. C'est un jour de tzedaka où on donne de pauvres, on donne de charité. Alors, c'est vrai que soit on a de pauvres, soit on donne aujourd'hui, on a d'autres moyens de donner directement ou indirectement, où on met dans les boîtes et on les donne après. Et ensuite, il y a le repas de Pourim. Le repas de Pourim, c'est le repas, un vrai repas avec un vrai festin. Et même, il est marqué dans le Talmud qu'il faut boire. Là, on va peut-être expliquer la semaine prochaine quelle est la signification de cette idée de boire et de boire même beaucoup. Mais en tout cas, on n'est pas encore là. Et on essaie de voir l'idée de... Et c'est que dans l'histoire de Pourim, il y avait, c'était parmi les moments les plus durs dans la communauté juive, où il y avait ce qu'on appelle l'antisémitisme, il y avait Haman. Alors on raconte l'histoire de Pourim, on essaie de comprendre l'histoire de Pourim, on essaie de comprendre l'histoire en comprenant donc grâce à ça ce qui se passe aujourd'hui, et donc comment il faut parfois réagir. Mais on essaye de voir donc, l'histoire de Pourim. Et dans l'histoire de Pourim, il y avait ce Haman qui voulait exterminer le peuple juif. Et donc, le peuple juif, ils ont été au plus bas à ce moment. Encore, il y a beaucoup de détails. C'est important de comprendre les détails. Mais finalement, de ce moment le plus dur, alors il y avait quelque chose de très profond qui était révélé. Si à cette époque-là, le peuple juif, ils ont été bas, ils ont descendu au niveau spirituel, mais à ce moment, en même temps que ce décret, il y avait quelque chose de très profond qui était révélé, leur attachement profond au judaïsme était révélé à ce moment, que même si qu'avant, donc quelques jours avant, quelques temps avant, il y avait une notion d'abandonner le judaïsme, de s'assimiler, de tout oublier, mais avec cette fête, non seulement qu'ils n'ont pas oublié, ils ont renforcé, et quelque part il est marqué qu'ils ont été prêts à donner leur vie pour le judaïsme. Ce qu'on n'a pas vu avant, ça veut dire que quelqu'un est prêt à tel point de donner sa vie pour le judaïsme. Et c'est ça, cette notion qu'on a dit qu'au moment de Pourim, au moment où on était écrasé, c'est à ce moment-là où la profondeur de notre profondeur est sortie. Et il est marqué même que c'était un moment qui a dépassé le don de la Torah. Au don de la Torah aussi, le peuple juif, ils ont été prêts, ils ont pris la Torah avec beaucoup vérité. Ils ont vraiment pris la Torah sur eux, ils ont été vraiment engagés. Mais quelque part, ce n'était pas vrai comme au moment de Pourim où, malgré les difficultés, malgré les problèmes, c'était très très dur d'être juif. C'est là où on a révélé leur poids juif, leur profondeur. Donc alors c'est ça qui va avec notre paracha. Et là aussi d'ailleurs on voit cette notion. Alors encore une fois, dans le monde juif on ne cherche pas les difficultés. Il faut chercher à faire ce qu'il faut. Mais il ne faut pas chercher les difficultés. Il faut vivre bien, une vie bien. Mais en même temps, il faut savoir qu'une fois qu'il y avait des difficultés, il faut voir comment on l'utilise en plus profond, comme l'idée de l'huile, que celui qui, au début, il était amer comme l'olive, et ensuite, c'est lui qui était écrasé, il a donné finalement de l'huile. Alors, à ce moment-là, c'est celui qui donne des goûts, il change. Et si avant il était amer, là il devient quelqu'un qui donne des goûts, des bons goûts dans les éléments. Et là aussi, cette idée de voir que les difficultés, c'est quelque chose, c'est un tremplin. Donc ça, c'est une des idées de Pourim. Maintenant, il est marqué dans la paracha, « Vata tetzave », que ça veut dire aussi que Moshe, Moïse, il devrait donner... devrait donner cet ordre au peuple d'Israël. Et on fait remarquer que dans notre paracha, il n'y a pas le nom de Moshe, depuis la naissance de Moshe, jusqu'à presque la fin de la Torah, sauf le dernier livre où Moïse lui-même il parle, mais sinon, partout il y a le nom de Moshe. Dieu il a dit à Moshe, fais ceci, dis cela. Et dans notre paracha, c'est la seule paracha où il n'a pas marqué le nom de Moshe. Donc, quelque part, Moshe, il est absent. Il y a ce qui les lie avec le fait que ça tombe en même temps que la mort de Moshe. Moshe, il a disparu. Il y a d'autres explications. Mais le rabbi explique comme ça que parfois, l'absence, c'est ça qui révèle la profondeur. Si il y a cette image qu'on voit qu'il y a un roi qui était tout le temps avec son fils, et à un moment donné, il a senti que le fils, il n'apprécie pas, il ne comprend pas la valeur, il ne voit pas que ce que son père lui donne, il n'apprécie pas. Donc alors le père, il s'est retiré, et à ce moment-là, le fils, il a remarqué que ça ne va pas, le père n'est pas là, donc alors ce qu'il a besoin, d'un coup, ils ne sont pas là. Il a commencé à chercher son père, mais là, d'un coup, il a commencé à fournir lui-même des efforts. Ce n'était pas comme avant, mais en même temps, il a commencé à comprendre, à donner une importance, à comprendre la valeur de son père, mais en même temps, lui-même, il a commencé à fournir des efforts. Et donc, à ce moment-là, son père s'est révélé à lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui a fait que le fils, il commence à comprendre, le fils, il commence à réagir grâce à l'absence de son père? Là aussi, dans notre paracha, il y a une absence qui amène en vérité à une présence. Grâce à cette absence, il y a une présence. Et donc aussi, dans les différentes difficultés qu'on a dans notre vie, qu'encore une fois, on essaye d'éviter, on ne comprend pas, on pose des questions, on n'a pas de réponse sur toutes nos questions. Mais ça, c'est la vision juive, que l'absence, c'est ça qui amène à la présence. On le trouve dans beaucoup d'endroits, dans la Torah, c'est un symbole très très fort. Mais aussi, là aussi, d'une part, Moshe, il est très absent dans notre paracha, parce qu'on ne parle pas de son nom. Mais d'une autre part, il est très présent, parce que c'est vrai qu'on parle de son nom, on ne parle pas de son nom, mais on parle de lui-même. Et là, on va revenir à ce qu'on a commencé cette émission avec cette idée, que chez l'homme, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau logique, quelqu'un qui comprend, qui réfléchit et réagit. Ça prend du temps parfois, je réfléchis, je fais ça, et je fais. Et ensuite, quelqu'un qui réagit parce que c'est intégré en lui, comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, quelqu'un qui conduit une voiture. Alors, parmi ce qu'on apprend, pas seulement de savoir ce qu'il faut réagir à quel moment, mais il faut aussi qu'il y aura l'inconscient qui réagit. Ça veut dire que quand il y a un moment où il faut prendre une décision à la seconde près, qu'il soit prêt, parce qu'à ce moment-là, non seulement qu'il ne réfléchit pas, c'est l'inconscient qui réagit, mais réagit bien. Dans le judaïsme aussi, il y a cette notion, parfois on réagit, on est dedans, on comprend, ça nous fait plaisir de faire telle et telle chose, mais parfois, on est tellement attaché à la chose qu'on réagit d'une façon non réfléchie, et on réagit d'une façon plus profonde. Mais c'est parce que c'est intégré, c'est quelque part gravé en nous. Et c'est ça, ces moments de Pourim, c'est ces moments, les différents moments de la vie qui n'étaient pas faciles, qu'à ce moment-là, les choses ont été intégrées en nous. Et c'est ça un petit peu l'idée de Pourim. L'idée de Pourim, c'est qu'on ne fait pas seulement parce qu'on comprend, on fait aussi parce que ça dépasse la compréhension, on révèle ce qui était intégré en nous, ce qui dépasse la compréhension. Alors peut-être ici, on va développer un petit peu cette idée qu'on a dit tout à l'heure. Il est marqué dans le Talmud, donc normalement, il faut faire attention à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut faire attention, bien les différences entre ce qui est bien et ce qui est mal. Chaque personne éduque ses enfants, il s'éduque à lui-même à connaître les frontières, à savoir qu'il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui sont mal. Le jour de Pourim, c'est un jour très intéressant. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas seulement l'histoire, il y a beaucoup de profondeur. Et la Haggadah de Pourim, c'est un livre avec beaucoup de détails. Parfois, si on étudie ça d'une façon superficielle, on ne voit pas la profondeur de telle chose, et pourtant, c'est très très profond. Et si on va commencer par le nom de ce livre, le livre d'Esther, en hébreu, ça s'appelle Megillat Esther. Megillat, c'est un rouleau, parce qu'à l'époque, le livre était fait d'une manière de rouleau. Et Esther, c'est le nom. Mais en vérité, Esther, chaque nom, il a sa source, il a sa profondeur. Alors, si on voit, on va à une autre vitesse, on va à une autre profondeur à comprendre qu'est-ce que ça veut dire Megillat Esther. Megillat Esther, selon la Chassidut, c'est révéler ce qui est caché. Car le mot Esther, ça veut dire caché. Et le mot Megillah, ça veut dire révéler. Tout à l'heure, on a dit l'idée simple du mot Megillat Esther, ça veut dire le rouleau d'une personne donc, qui s'appelle Esther. Mais selon le niveau, le deuxième niveau, Megillat Esther, ça veut dire révéler ce qui est caché. Alors, d'une façon générale, on explique que l'histoire d'Esther, c'est notre histoire. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée il y a tant d'années dans tel endroit, ce qui est vrai, mais c'est une histoire qui se passe avec nous, en général, dans notre monde. Et il y a beaucoup de détails. Esther, c'est nous tous. Et elle se trouve dans une situation difficile, comment on réagit. Mais parmi les choses, parmi l'idée, les détails, c'est Esther, ça veut dire cacher. Il faut cacher quelque chose. On est dans un monde où on ne comprend pas la profondeur, le but. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans notre monde. Et notre rôle, c'est révéler ce qui est caché. Alors si on commence déjà avec l'histoire de Purim, l'histoire de Purim, c'est une histoire dramatique qui s'est passée dans un endroit. Et parce que c'est passé parce que la lumière divine n'était pas révélée. Donc on n'a pas compris ce qu'il faut faire. Et donc on a fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Et donc c'est ça qui a amené sur nous les décrets d'Aman. Et l'histoire de Purim, c'est révéler ce qui est caché. Et si on regarde dans l'histoire de Purim, on voit que finalement, même si que tout est caché à tel point que c'est le sol, c'est le seul livre dans la Bible qui n'est pas mentionné le nom de Dieu, quand même c'est la Bible. La Bible c'est un livre, si on peut dire, religieux, pas seulement historique. Et pourtant le nom de Dieu il n'est pas mentionné, même pas une fois. C'est une histoire comme ça que s'est passé avec telle et telle personne, tel et tel peuple. Mais il n'y a pas le nom de Dieu. Et on s'interroge comment ça se fait. Et parmi les raisons, c'est justement, c'est ça l'idée de l'Agada, la Megillah. Et ça, c'est l'histoire de cette histoire que le nom de Dieu n'est pas révélé, c'est à nous de révéler. Donc alors, ça c'était une parenthèse, mais je voulais arriver à cette idée, il est marqué dans le Talmud qu'il faut boire Purim, jusqu'à le moment où on ne connaît pas la différence entre cette phrase « méchant Aman » et Béni Mordechai. C'est un sujet qu'il faut expliquer, donc d'une façon plus large, normalement il faut faire la différence, il faut connaître ce qui est bien et ce qui est mal, aller vers le bien, éloigner le mal. Mais Purim, à la fin de la journée, parce que toute la journée on dit ça c'est bien, ça c'est de mal, ça c'est le sujet de Purim, de faire bien la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais à la fin de Purim, il faut savoir passer les limites à tel point qu'on ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Quand quelqu'un qui le voit à tel point qu'il ne connaît pas la différence entre le bien et le mal, ce n'est pas normal. La Torah elle est basée sur la logique. Et là, d'un coup, on nous dit que tu dois dépasser la logique, que tu dois perdre ta tête. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, il y a plusieurs explications. Et peut-être la semaine prochaine, on va voir l'autre explication. Mais aujourd'hui, on va parler dans le même sens qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y a une notion de conscience et il y a des notions de non-conscience. La conscience, c'est quelque chose, en fait, il y a plusieurs notions dans la conscience même. Mais dans la conscience, c'est quelque chose qui est logique. Je comprends et je réagis. Je comprends, je vois que ça c'est bien, donc je tourne à droite. Je vois que ça c'est pas bien, je tourne pas à gauche. Mais il faut que je réfléchisse. Mais ensuite, j'ai tellement d'intégré en moi cette idée que je dois même pas réfléchir. Je réagis directement, comme dans la conduite, que parfois je ne réfléchis pas, c'est mon corps qui fait l'acte. Et là aussi, on dit que la Torah, elle doit être tellement attachée et intégrée en moi que je ne dois pas réfléchir, je réagis directement je sais que ça c'est bien et ça c'est pas bien, mais c'est pas par la réflexion. Au début, ça passe par la réflexion. Ensuite, ça doit être tellement intégré que je ne réfléchis pas. Donc alors, quelque part, Purim révèle en nous une idée de profondeur. Et c'est ça l'idée générale de cette fête de Purim, de non seulement réfléchir, et donc la réflexion, elle est très limitée. On réfléchit, on arrive à une conséquence, mais parfois je réfléchis et pourtant je fais le contraire parce que je ne suis pas dedans. L'idée de Purim, c'est que les choses, il est tellement important que je ne dois même pas réfléchir. C'est intégré en moi. En tout cas, pour terminer, mais c'est vrai que l'idée de Purim, c'est qu'on raconte une histoire. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, mais il y a l'Aristote, on raconte en son nom que parfois, une fois, il a fait des choses que ses élèves étaient étonnés comment ça se fait qu'Aristote fait des choses pareilles. Et il a dit, je suis Aristote au moment où je vous donne les cours. Maintenant, je ne suis pas Aristote. En fait, maintenant, je suis un homme comme vous. Ça veut dire qu'il y a ce qu'il faut faire et il y a ce que je fais vraiment parce que L'intellect, il joue pas sur ma vie personnelle. Il y a ce que je comprends qu'il faut faire ou il faut pas faire, et il y a ce que je fais. Et ça, c'est le problème de notre société aujourd'hui, qu'il y a des gens qui tombent dans des choses graves, même si ils comprennent que c'est pas bien, mais ils ont du mal à suivre leur logique. Parmi les idées de Purim, c'est que finalement, la logique, elle soit suivre par les sentiments, à tel point qu'on n'a même pas besoin de réfléchir. Ça devient quelque chose de nature. Purim, c'est un moment où ça nous révèle notre profondeur, quelque chose de profond. On a besoin de ça. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va assez mal. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'idéologies que lorsqu'on arrive à l'appliquer, pas toujours on le fait. Et donc ça, c'est le message de Purim, que c'est qu'on a compris que c'est bien, donc que ce soit intégré en nous, à tel point que ce soit une partie de nous. Et c'est qu'on le monde il souhaite aujourd'hui, tout le monde parle de la paix, mais on a du mal, tout le monde prend dans leur part, eux ils ont raison, et eux ils représentent la paix, et quelqu'un d'autre non. Mais ça c'est l'idée du monde messianique, qu'à ce moment-là, on va non seulement penser à certaines choses, mais on va l'intégrer. Le monde il va être un monde où, comme le nom de la Megillah, on va révéler ce qui est caché. Ça veut dire ce qui est caché dans notre monde. Et c'est pour ça que on a du mal, parce que les choses sont cachées, le bien est caché, il va être révélé. Et à ce moment-là, le monde, il va trouver sa dignité. Ça, c'est le monde de Mashiach. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.